Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie. Nous allons poursuivre le cycle que nous avons entamé la semaine dernière en compagnie de Michel Brun, celui que nous consacrons à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Je retrouve donc aujourd'hui le fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton Bach d'abord pour le deuxième volet de cette série après les deux passions selon Saint-Jean et selon Saint-Mathieu, la forme oratorio donc. C'est la musique instrumentale du grand compositeur allemand que nous allons commencer à explorer maintenant. Je dis bien commencer parce que là encore, le sujet est vaste. Nous avons choisi d'inaugurer cette exploration avec l'œuvre pour clavier seul. C'est reparti pour un retour arrière qui va nous ramener de nouveau, il y a près de 300 ans, lors de la première moitié du XVIIIe siècle.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'œuvre pour clavier seul est vaste en elle-même. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir vous la présenter dans son intégralité. Nous avons donc fait un choix et il s'est porté sur le clavier bien tempéré, les variations Goldberg et l'art de la fugue. Alors, Michel Brun, avec ses trois recueils de très grande envergure, il est vrai, on peut dire qu'on tient vraiment les pièces maîtresses de l'œuvre pour clavier de Bach.
Bah, écoutez, oui, évidemment, on tient des pièces maîtresses. On peut toujours, avec Bach, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut toujours imaginer qu'on pourrait y rajouter les 6 partitas, les 6 suites françaises, les 6 suites anglaises, plus, bien entendu, les toccatas, etc. Bon, mais la particularité de ces œuvres-là, on va dire, c'est qu'elles associent le génie de Bach avec un aspect de son talent de compositeur bien particulier, qui est une certaine forme de spéculation aussi, on pourrait dire, intellectuelle. Et donc, c'est ça qui les réunit et c'est ça qui en fait des chefs-d'œuvre.
Alors, par ordre d'apparition, donc le clavier bien tempéré, deux livres, un en 1722, un en 1744. La deuxième œuvre, les variations Goldberg, la composition c'est 1740. Et la troisième, l'art de la fugue, est commencée en 1740, entre 1740 et 1742, mais elle restera inachevée. Il va y travailler jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, on a affaire à trois œuvres de la maturité, de la très grande maturité de Bach. Bach qui était, rappelons-le tout de même, réputé comme étant un virtuose du clavier, du clavecin et de l'orgue.
Absolument, absolument. On oublie très souvent de le dire, mais c'était un virtuose au sens en plus où on l'entendait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que non seulement c'était évidemment un instrumentiste hors pair avec une technique absolument extraordinaire, on peut l'imaginer quand on voit l'incroyable difficulté des œuvres dont on parle aujourd'hui, et également un improvisateur de génie, ce qui était lié à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas séparément un travail instrumental et l'improvisation, mais donc on connaît cette histoire célèbre de ce duel avec le grand improvisateur Louis Marchand à l'orgue, lorsqu'est arrivé son tour de passer pour son improvisation sur le même thème que Bach, eh ben il était parti. Il avait fait ses valises parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'était pas au niveau et donc on n'a jamais entendu l'improvisation de Louis Marchand sur le même motif que Jean-Sébastien Bach.
Alors, pour explorer les trois œuvres que nous avons choisies, nous allons encore procéder dans l'ordre chronologique et commencer avec le clavier bien tempéré, composé donc en 1722 pour le premier livre et en 1744 pour le second. Alors, tout de suite, ce qui interpelle, c'est le titre de cette œuvre. Clavier, on voit bien de quoi il s'agit, mais bien tempéré. Pourquoi clavier bien tempéré? Est-ce qu'il faut entendre derrière ce terme la notion de tempérament?
Alors évidemment qu'il faut entendre la notion de tempérament, mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent, tempérament c'est un mot qui peut avoir beaucoup de sens. Le tempérament humain, par exemple, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelait le tempérament humain, hein, également au XVIIIe siècle, et un mot qui est proche aussi la tempérance, donc on ne parle pas de tempérance quand on parle de ce tempérament-là. Non, ça, nous ne sommes pas dans ce domaine-là, nous sommes dans un domaine bien particulier et propre à la musique, on va dire jusqu'à environ, pour faire simple, hein, Beethoven, c'est-à-dire encore pour un certain temps. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, lorsque on jouait une note qui, de nos jours, est la même, exactement la même note, prenons par exemple le cas de ce qu'on appelle un fa dièse, qui peut s'appeler également un sol bémol, c'est-à-dire c'est la même touche noire sur un clavier, pour bien qu'on se représente ça, la même touche noire sur un clavier, c'est-à-dire quand on appuie sur cette touche noire, on entend le même son, eh bien, à l'époque de Bach, ça n'était pas le cas. Il y avait une petite différence de hauteur entre le fa dièse et le sol bémol. Alors je vais vous en donner peut-être un petit exemple sur un instrument époque, puisque évidemment nos claviers modernes, eux, ne fonctionnent plus de cette manière-là, mais à l'époque, donc ma flûte, puisque je suis flûtiste, ma flûte qui est une copie de flûte pile de l'époque de Jean-Sébastien Bach, garde donc cette différence. Alors j'ai choisi de vous jouer alternativement un la dièse et un si bémol, c'est-à-dire c'est la même touche noire sur le clavier, mais écoutez la subtile différence. Voilà, donc les deux notes rapprochées, on entend peut-être davantage la différence que quand je les éloigne un petit peu. Alors vous allez me dire, c'est bien subtil tout ça. Oui, effectivement. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails physiques, hein, de physique acoustique, mais simplement, donc à l'époque, dièse et bémol n'étaient pas la même chose. Ce qui avait un énorme avantage, c'est que chacune des tonalités, c'est-à-dire quand on choisissait de jouer avec une tonalité qui, par exemple, avait 4 dièses à la clé, ou une tonalité qui avait 2 bémols à la clé, on avait des couleurs de tonalités extrêmement différentes. Et il y a d'ailleurs eu des traités très importants, un certain Matheson, un contemporain de Jean-Sébastien Bach, a écrit un traité sur les couleurs affectives, l'expression propre à chaque tonalité. Mais qui avait un gros désavantage, c'est que dans le même concert, on ne pouvait pas jouer d'œuvres qui comportaient trop de bémol ou trop de dièse, parce qu'à ce moment-là, évidemment, ça ne fonctionnait plus. Et donc, Bach s'est trouvé confronté à cette difficulté, comme beaucoup de ses contemporains d'ailleurs, de devoir chercher une solution pour s'approcher de quelque chose. D'où le bien tempéré, quelque chose qui permette de jouer dans toutes les tonalités. Et donc, il a composé ces deux cycles, tous les deux, qui sont écrits sur le principe suivant. Chaque note, donc pardon, la première, la plus connue, Do, va donner naissance à une pièce, enfin à un groupe de deux pièces, un prélude et une fugue. Donc, qui est une œuvre qui va durer environ 5 minutes. Et puis ensuite, on va passer à la note suivante. Donc, si tout le monde me suit bien, la première touche noire après le Do, c'est le Do dièse. Et donc, il va écrire un prélude et une fugue en Do dièse, puis la touche suivante, le Ré, etc., etc. Et ça, il va falloir que, sans qu'on ait à réaccorder son clavecin entre chaque, ça puisse sonner correctement. Voilà, je vous en donne un petit exemple.
Là, on va l'écouter cette fois-ci au clavier.
Tout le monde aura reconnu, bien sûr, le début du premier prélude, du premier livre du clavier bien tempéré. Eh bien, Bach aurait pu écrire la même chose, mais en remontant d'un cran. Et puis il aurait pu continuer à monter, je ne vais pas vous donner l'ensemble des 12 notes possibles, mais un dernier petit exemple. Voilà, et donc, etc. sur les 12 notes de ce qu'on appelle la gamme chromatique, c'est-à-dire les 12 touches noires et blanches du clavier. Et ça, sans que nos oreilles soient trop, agressées par ce problème de différence entre les dièses et les bémols.
Donc deux livres, le premier en 1722, le second 22 ans plus tard en 1744, en tout 24 préludes, 24 fugues, et on explore comme ça toute la gamme chromatique.
Exactement.
Demi-ton par demi-ton.
Demi-ton par demi-ton, absolument.
Nous allons écouter plusieurs extraits du clavier bien tempéré, bien sûr, mais avec des interprétations, des interprètes différents, tous choisis par Michel Brun. Et le premier que nous allons vous faire entendre, c'est un prélude que tout le monde connaît. Vous venez d'en entendre un petit aperçu, même plusieurs petits aperçus. Là, il est joué par un des plus grands pianistes du siècle dernier, ce fameux prélude et fugue numéro 1 du livre 1 du clavier bien tempéré. C'est Sviatoslav Richter qui est au piano.
Thank you.
prélude et le début de la fugue numéro 1 du livre 1 du clavier bien tempéré, joué par Sviatoslav Richter. Et ça va nous donner l'occasion d'expliquer ce que c'est qu'un prélude et une fugue.
Voilà, tout à fait. Alors, outre ce qu'on a dit donc, pour l'explication du bien tempéré, que contiennent exactement ces deux recueils ? Voilà, donc, à chaque fois, un groupe de deux pièces dans chacune des tonalités, comme on l'a vu, un prélude et une fugue. Alors, Bach a décidé de les associer parce que c'est peut-être les absolus opposés dans l'écriture pour un compositeur. La fugue est peut-être le mode d'écriture le plus contraignant, parce que le plus rigoureux, et le prélude, lui, par contre, sera une pièce complètement libre, avec des affects d'ailleurs très différents selon les différents préludes. Il y en a qui seront véritablement des morceaux de virtuosité pure, comme celui qu'on vient d'entendre, une sorte de méditation, on pourrait dire, très simple, hein, très dépouillé, voilà. Donc le prélude est libre, et la fugue, elle, est au contraire très encadrée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fugue ? On l'a très bien entendu dans le début de cette première fugue. La fugue, c'est le fait de répéter plusieurs fois le même thème, mais alors que la partie qui vient de faire le thème continue à jouer. Donc c'est cette superposition de différentes voix. On peut faire des fugues à partir de deux, mais en général c'est trois voix, et jusqu'à six voix et plus, hein, il existe quand même une fugue à 30 voix, je crois, pas de Bach, hein. Mais voilà, superposition donc de voix qui continuent leur propre chemin une fois qu'elles ont émis le thème, mais chaque voix, à un moment donné, va démarrer par ce même thème. Et c'est donc cette grande difficulté d'écrire la fugue, c'est de réussir à rendre ça harmonieux, malgré les contraintes.
Alors je reviens à la version qu'on vient d'entendre, celle de Richter. On peut dire que c'est vraiment un des très grands interprètes du clavier bien tempéré au XXe siècle.
Voilà, bah c'est un des plus grands interprètes tout simplement du XXe siècle, hein, voilà, un immense musicien, immense pianiste, immense musicien. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer par lui, parce que je trouve que c'était une belle référence. Après, il y a un dernier mot donc, dont on n'a pas encore parlé, mais bien sûr dont on va parler, dans le titre, qui est clavier. Et peut-être là...
Justement, voilà. Parce que clavier du piano aujourd'hui, mais à la base c'est clavier du clavecin.
Alors, c'est clavier de plusieurs choses, éventuellement. Normalement, évidemment, du clavecin.
Clavecin, hein, à la base.
Voilà, à la base. Donc, le vrai titre, c'est effectivement, porte le mot clavier. Hein, donc, voilà, le mot allemand pour dire clavier. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne pouvait pas être le piano tel qu'on l'a entendu, le piano que joue Sviatoslav Richter, parce que cet instrument n'existait pas, tout simplement. Mais par contre, il y avait d'autres instruments à clavier. Et on va l'entendre, d'ailleurs, à un moment donné, très surprenant. Donc, le premier qui vient à l'esprit, c'est l'orgue, dont Bach était lui-même, effectivement, un grand virtuose. Ça pouvait être ce qu'on appelle maintenant le pianoforte, qui était donc un instrument un peu intermédiaire entre le clavecin et le piano, qui avait cette richesse supplémentaire.
Qui en était assez balbutiement à la fin de David Bach.
Absolument, tout à fait, mais que Bach a connu. On ne sait pas d'ailleurs.
A priori, il a un petit peu pianoté.
Oui,
dessus,
oui, tout à fait.
Il aurait trouvé ça, je crois, intéressant, mais qu'il fallait encore qu'on travaille.
Absolument, tout à fait. C'est un instrument, effectivement, bon, voilà, un peu, on va dire, hybride, mais qui permettait quand même, qui avait un avantage par rapport au clavecin, c'est qu'il permettait de faire des nuances, puisque le poids qu'on met sur la touche quand on la joue a une conséquence directe sur la force.
Ce n'est pas le cas au clavecin.
Ce qui n'est pas le cas au clavecin, absolument. Et donc, dernier instrument, et on en entendra tout à l'heure un exemple, c'est le clavicorde. Alors le clavicorde, c'est un instrument très peu connu, qui était une sorte de clavier donc pour jouer à la maison, très intime. On pouvait en jouer toute la nuit, alors là, on ne risquait pas de déranger les voisins, parce que c'est un instrument qui dégageait, je ne sais pas s'il dégageait plus de 20 décibels, hein. C'était vraiment un instrument confidentiel.
On va justement continuer notre exploration du clavier bien tempéré avec tout d'abord une version au clavecin, une version du claveciniste français Pierre Antaille. Des préludes et fugues du clavier bien tempéré au clavecin, joué donc par Pierre Antaille. Qu'est-ce qu'on peut dire en comparant avec le piano? Qu'est-ce qu'il y a en plus ou en moins?
Ah ben ça, c'est un vaste débat. On a exploré un petit peu, et on en reparlera peut-être en toute fin d'émission aujourd'hui, la dernière fois, au sujet de la passion selon saint Matthieu, les différences entre les interprétations alors sur instruments d'époque ou sur instruments modernes, et puis des interprètes qui ont fait une réflexion sur l'interprétation en se replaçant, disons, un peu dans les conditions des compositeurs de l'époque. Parce que, outre l'instrument, il y a aussi une réflexion qu'on peut avoir, et en particulier, on pourrait dire, bah oui, mais on n'a pas beaucoup de documents. Si, on a beaucoup de traités d'interprétation qui peuvent nous guider. Évidemment, on n'a pas d'enregistrement de l'époque, hein, mais on a beaucoup de traités d'interprétation qui peuvent nous guider. Il y a par exemple un immense pianiste actuel, qui a fait tout un travail pour adapter à l'instrument moderne dont il joue, qui est le piano, un jeu proche du style de l'époque. C'est Murray Peraya, qui a enregistré quasiment l'intégrale de l'œuvre pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach, au piano moderne, un grand Steinway à queue, mais qui en joue d'une manière incroyablement proche du clavecin. Et donc, il n'y a pas que l'instrument. Voilà. Alors moi, je vous avoue que, voilà, pour moi, l'interprète est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que l'instrument. Beaucoup plus.
Eh bien, encore un autre instrument pour découvrir un nouvel extrait du clavier bien tempéré. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le clavicorde. Voici la fugue en fa majeur interprétée par Nicolas Zanin. Voilà, hein, quelques mesures de cette fugue en fa majeur du clavier bien tempéré jouée au clavicorde par Nicolas Zanin. Alors pourquoi vous avez voulu nous faire entendre cet instrument précisément?
Ah ben voilà, parce que c'est une rareté, hein, très honnêtement. Le clavicorde est un instrument qui est donc très peu connu. C'est normal parce que c'est pas du tout un instrument de concert. Donc autant le clavecin a pu choquer au début lorsqu'il est redevenu, on va dire, à la mode, lorsqu'il a été pratiqué, parce qu'évidemment c'est un instrument beaucoup moins puissant que le piano, et donc dans nos salles de concert à 1000, 2000, 3000 places, c'était très difficile de le faire sonner correctement. Donc on s'est aperçu au bout d'un moment, voilà, il valait mieux entendre le clavecin dans une petite pièce. Mais le clavicorde, c'est encore pire. C'est un instrument vraiment de l'intimité. Je pense que c'est merveilleux parce que ça pouvait être l'instrument que jouait un musicien le soir chez lui pour ne pas déranger sa famille ou ses voisins, et sur laquelle il se livrait, voilà, une sorte de rêverie musicale. Voilà, c'est l'instrument de la rêverie musicale intime.
Voilà donc le clavicorde, instrument rareté, comme vous l'avez dit, qu'on n'entend plus guère de nos jours. Et pour en terminer avec le clavier bien tempéré, nous allons revenir au fameux prélude que nous avons écouté pour commencer. Vous avez souhaité qu'on écoute une chanson dont le texte a été écrit sur ce prélude. Je pense qu'il y en a qui me voient venir. Il s'agit bien sûr de la chanson sur un prélude de Bach interprété par la regrettée Morane. Ça va nous donner l'occasion de lui rendre hommage. On l'écoute tout de suite.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchers. Les citernes de gasoil, toi qui courais dans les flaques, et moi et ma tête à claque, moi qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un bout de colle.
Sur un prélude de Bach chanté par Morane, alors Michel, je vous voyais la larme à l'œil en écoutant ça. Alors moi, je suis pas trop pour le mélange des genres, mais là, franchement, c'était une réelle réussite.
Tout à fait. Alors là, bon, voilà, émotion, j'avoue, chaque fois que j'entends cette chanson magnifique, hommage extraordinaire à Bach, hommage en même temps simple. parce que accessible à tous. Ça n'est pas quelqu'un qui va faire un grand discours pour dire « mais Bach, c'est merveilleux », etc. Mais qui montre à quel point cette musique peut rester universelle quelques siècles après qu'elle ait été composée. Et il faut savoir, juste pour la petite histoire, qu'il y a une autre version de ce prélude, beaucoup plus connue peut-être encore que celle de Morane. On dit parfois, on parle parfois, donc, de l'Ave Maria de Gounod. Mais ce monsieur Gounod a repris la même mélodie du premier prélude, du premier livre du clavier bien tempéré de Bach, et a rajouté, lui aussi, au 19e siècle, hein, Gounod, grand compositeur d'opéra français, a rajouté lui aussi sa petite mélodie là-dessus. Voilà, il faut savoir que Morane, donc, vous l'avez entendu, toutes les notes du prélude y sont sans une de plus en ce qui concerne la partie piano, sauf qu'elle double la première mesure. Le temps de se mettre dans l'ambiance avant de commencer à chanter. Et puis elle a rajouté donc cette mélodie avec sa voix et ses paroles sublimes et donc un tapis de cordes qui vient nourrir aussi l'expression de cette magnifique chanson.
Voilà donc pour le clavier bien tempéré. Nous allons maintenant passer aux variations Goldberg composées par Bach en 1740. Avant de nous plonger dans l'œuvre elle-même, je vais vous demander de nous rappeler quel est le principe de la variation en musique et la raison pour laquelle celles-ci ont pris le nom de Goldberg.
Voilà, alors la variation, c'est un procédé qui a été très 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 utilisé en musique, surtout on va dire aux périodes baroques et classiques, et romantiques aussi, puis qu'après ont perdu un petit peu de leur usage, on va dire. Alors, ça consiste à reprendre un thème et à, comment on pourrait dire, rajouter des choses autour de ce thème.
Varier autour,
voilà, pour l'ornementer, le complexifier, etc., etc. Mais la particularité, alors vraiment absolue, de ces variations Goldberg, c'est que ça n'est pas la mélodie que Bach a ornementée, a variée. Il a gardé tout au long de cette longue œuvre, hein, quand on fait toutes les reprises, c'est une œuvre qui doit durer 1h10 à peu près.
Une heure et quart à peu près,
quand on fait la totalité des reprises. Donc, il a gardé, lui, la ligne de basse. Et c'est cette ligne de basse qui n'est pas évidemment la première chose qu'on entend quand on entend une pièce de musique. On fait bien souvent bien plus attention, bien sûr, à la mélodie qui est jouée au-dessus, mais la ligne de basse restera la même. Et alors après, la mélodie, elle, n'a absolument rien à voir, donc ça n'est pas des variations comme, par exemple, celle qu'a pu écrire Mozart sur la chanson « À vous dirai-je, maman » où, tout au long des variations qu'il a écrites, on reconnaît la mélodie. Voilà, voilà la ligne de basse sur laquelle Bach a écrit ses variations. L'ensemble de ce recueil, donc d'une heure un quart, va être basé sur cette ligne de basse. Mais évidemment, à chaque fois, il va en varier le rythme, comment dirais-je, la simplicité, il peut la complexifier un petit peu. Dans une variation, par exemple, il va mettre ce rythme-là. Mais personne n'est dupe, bien entendu, c'est bien la même ligne de basse exactement.
Monsieur Goldberg, qui est-ce ?
Alors, Monsieur Goldberg, c'est un claviériste, un claveciniste, donc, pour l'époque. C'était un jeune musicien à l'époque où on raconte cette anecdote de la genèse de la composition des variations Goldberg. Alors, l'histoire, qui est maintenant contestée en partie au moins par les musicologues, serait la suivante. Un certain monsieur Kaiserling aurait eu des insomnies. Et un peu à l'image des contes des mille et une nuits, il aurait demandé à être bercé pendant ses insomnies, peut-être d'ailleurs bercé pour le bonheur tout simplement de la musique, mais aussi pour retrouver le sommeil, d'être bercé par de la musique. Et il avait un jeune protégé, c'était un comte, je crois, Kaiserling, enfin en tout cas un noble. Il avait donc un protégé qui devait être plus ou moins peut-être un serviteur ou voilà de sa maison, qui était ce monsieur Goldberg, qui était un jeune homme à l'époque, qui avait 13 ou 14 ans, et qui était un remarquable claveciniste.
Très doué, pareil.
Très doué, voilà. Qui aurait été d'ailleurs probablement un peu élève de Bach.
Élève de Bach, oui.
Voilà. Et donc, il aurait commandé, selon cette anecdote, commandé à Bach cette œuvre longue pour pouvoir bercer ses longues insomnies, et chaque nuit, avec cette peut-être désinvolture des nobles à l'époque, il réveillait son serviteur en musique, on pourrait dire, son jeune Goldberg, et lui demandait de lui interpréter un extrait des variations Goldberg. Bon, il semble que l'histoire soit seulement en partie vraie. Il semble que la gratification d'une coupe entière remplie d'or qu'il aurait remise à Bach pour la composition de cette œuvre soit aussi un petit peu exagérée, mais quand même que Bach ait été payé pour la fourniture de cette œuvre absolument unique dans l'histoire de la musique.
Tout de suite, un premier extrait des variations Goldberg dans cette émission. Nous allons bien sûr commencer par le fameux aria, le thème qui ouvre les Goldberg dans une version d'un de leurs plus célèbres interprètes, Glenn Gould.
«
L'aria, le thème d'ouverture des variations Goldberg joué par Glenn Gould dans la version qu'il a enregistrée en 1955. On va tout de suite écouter le même morceau joué par le même Glenn Gould, mais cette fois-ci dans la version qu'il a enregistrée 26 années plus tard en 1981, à peine un an avant sa mort. Voilà donc l'aria, le thème d'ouverture joué par Glenn Gould, l'enregistrement de 1981. Et on va écouter une dernière fois Glenn Gould dans les Goldberg avec la très courte cinquième variation interprétée par le grand pianiste canadien. La cinquième variation des Goldberg jouée par Glenn Gould, autre extrait de l'enregistrement de 1981. Alors Michel Brun, vous avez souhaité évidemment qu'on écoute Glenn Gould dans cette émission, c'était pas possible de faire autrement, mais vous avez souhaité qu'on écoute ces trois extraits enchaînés, l'aria en 55, l'aria en 1981 et la cinquième variation en 1981, parce qu'évidemment il y a une évolution et ça permet aussi de parler de la construction de l'œuvre.
Voilà, tout à fait. Alors je pense que c'était impossible non seulement de ne pas parler de Glenn Gould, bien sûr, en parlant des variations Goldberg, mais de ne pas commencer par lui de la même manière qu'on avait commencé tout à l'heure par Sviatoslav Richter. La version des variations Goldberg de Glenn Gould est encore plus connue, beaucoup plus médiatique et plus connue et plus, comment on pourrait dire, collée aux variations Goldberg. C'est vraiment intimement
quand
collée.
Quand on parle de variations Goldberg, on pense à Glenn Gould.
Alors que Glenn Gould a enregistré évidemment énormément d'autres choses, mais c'est cet enregistrement-là qui a fait alors énormément pour la réputation de Gould et pour faire connaître aussi auprès d'un grand public, du grand public, les variations Goldberg de Bach qui étaient, il faut bien le reconnaître, un petit peu tombées dans l'oubli à l'époque. Voilà. Alors pourquoi ces plusieurs versions ? Ben, je voulais illustrer quelque chose qui était que vous avez entendu tout le monde, c'est pas la peine de faire de longues études de solfège et de musicologie pour percevoir qu'il y avait une énorme différence d'interprétation entre la version de 1955 et celle de 1981 qui était presque deux fois plus lente. Alors, il y a en même temps quelque chose de merveilleux qui est cette immense liberté des interprètes, surtout dans la musique baroque, puisque les compositeurs mettaient très très peu d'indications. C'est pas du tout comme ce qui s'est passé à la période classique, puis romantique, et alors là d'une manière qui devient presque insupportable dans la musique contemporaine, où chaque note bénéficie d'un avis du compositeur.
C'est-à-dire corsetée.
Voilà, elle est corsetée, absolument, c'est le mot. L'interprétation est complètement corsetée parce qu'il y a énormément d'indications données à l'interprète sur la manière de jouer les choses. Alors que là, ben Bach n'a rien mis. Aria. Et aucun tempo indiqué. Bon, faut savoir que le métronome n'existait pas à l'époque de Bach, donc en plus, il ne pouvait pas nous embêter en nous mettant une indication précise de tempo, mais il aurait pu mettre quand même Andante, ou Adagio, ou Allegro, voilà, et rien. Et donc, toute liberté. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'évolution d'un homme, et on a entendu la deuxième version, donc à la veille de sa mort, mort jeune, hein, il n'est pas mort.
Il est mort à 50 ans.
Voilà, hein. À 50 ans. Mais quand même, on se dirige, peut-être aussi comme Bach a évolué dans sa vie, vers quelque chose de plus en plus spéculatif et de plus en plus intérieur. Alors, on aurait pu dire aussi, c'est parce que, ben voilà, Glenn Gould, il vieillissait, il commençait à plus avoir de technique, et j'ai voulu vous montrer dans la variation 5 que...
Qui est aussi de 1981.
Voilà, qu'il avait gardé toute sa vélocité et qu'ici, il avait fait le choix d'interpréter l'aria aussi lentement. C'était évidemment pas pour des raisons de technique instrumentale, mais c'était un choix personnel, une grande introspection qui, peut-être, on peut ne pas être d'accord, fait peut-être dire à la musique trop qu'est-ce qu'elle n'a pas à dire. Hein, mais ça, c'est l'avis de chacun.
Ce sont des parties
prises. Absolument. Et une dernière chose, j'ai choisi aussi cette variation parce que je pense que tout le monde dans cette variation a entendu donc cette espèce de volubilité de la main droite, mais tout le monde a entendu la basse à la main gauche,
hein,
comme je l'ai dit tout à l'heure, cette basse qui va scander la totalité des variations Goldberg.
On va rappeler encore que les variations Goldberg ont été composées à la base pour le clavecin. Nous allons donc en écouter une version sur cet instrument avec encore l'aria d'ouverture, jouée ici par le claveciniste Yannick Le Gaillard. Yannick Le Gaillard qui jouait donc l'aria d'ouverture des variations Goldberg au clavecin. Alors, on n'en trouve pas tant que ça de nos jours, des versions au clavecin, des variations Goldberg. Et on n'en trouve pas tant que ça de bonnes surtout. C'est un peu ce que vous m'avez dit.
Voilà, absolument. Alors, des versions.
Pas de bonnes selon vos goûts. Hein.
Voilà, selon mes goûts, absolument. Il faut rester très modeste. Hein. Il y a bien sûr dans toute appréciation d'un interprète un aspect éminemment subjectif et il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans. Mais on trouve un nombre incalculable de très belles versions pour piano. Parce que je pense que Glenn Gould a littéralement inspiré
et ouvert la voie,
a ouvert la voie absolument, en montrant à quel point on pouvait être en même temps inventif, libre, dans une musique a priori, voilà, qu'on pourrait penser un petit peu
très écrite, et on ne peut pas y toucher.
On ne peut pas y toucher. Donc il y a des versions absolument extraordinaires qu'on peut presque toutes trouver sur YouTube au piano, et je trouve qu'au clavecin, c'est pas si évident que ça de réussir. C'est-à-dire, le problème du clavecin, c'est que c'est un instrument qui ne chante pas facilement, puisqu'il n'y a pas cette possibilité
de
prolonger le son et de faire des nuances comme au piano. Et donc, voilà, j'ai trouvé cette version d'un claveciniste un petit peu oublié de nos jours, hein, maintenant. Je l'ai trouvée très chantante et très belle, très équilibrée. Attention, précisé par Jean-Sébastien Bach, clavecin a deux claviers. Et c'est très important parce que c'est une véritable prouesse pour les pianistes. Et d'ailleurs, Glenn Gould avait fait bricoler son piano pour rendre plus accessible cette prouesse, plus facile cette prouesse. C'est qu'à deux claviers, on peut beaucoup plus facilement croiser les mains. Et Bach demande dans cette œuvre de haute virtuosité de très fréquents croisements de mains. Et lorsqu'on n'a qu'un seul clavier, on a beaucoup moins de place. C'est facile à comprendre. C'est comme pour se croiser dans une petite pièce. C'est beaucoup plus difficile que de se croiser dans une grande pièce. Et donc, il a bien précisé, clavecin a deux claviers.
On va revenir au piano sur ces Goldberg joués par un autre musicien que vous aimez beaucoup, je le sais, et vous avez tenu à ce qu'on l'entende dans cette émission. Il s'appelle Eric Vidon et il joue la première variation. La première variation des Goldberg jouée par Eric Vidon. Alors là, ça coule de source. C'est une interprétation que je trouve vraiment lumineuse. Vous l'avez invité à Pastorbach. D'abord, Eric Vidon, vous l'adorez, ce garçon.
Alors, je l'adore. Bon, je ne vais pas le cacher. C'était un ami bien avant que je l'invite. C'est parce que c'était un ami et un immense pianiste que je l'ai invité. Et il a joué. Donc, ce que nous entendons, ne cherchez pas cette version sur YouTube. Elle n'y est pas. Ne cherchez pas cette version dans les bacs des disquaires ou des médiathèques. Elle n'y est pas, c'est l'enregistrement, un extrait de l'enregistrement fait en concert pendant le festival Pastorbach, d'abord il y a quelques années.
Donc c'est du live.
Voilà, c'est du live, absolument. Et vous entendez, bon, cette espèce de naturel, vous avez parlé de couler de source, ce qui me plaît beaucoup quand on sait que Bach en plus veut dire ruisseau en français.
Oui. Hein,
donc il y a bien cette idée de fluidité extraordinaire, de naturel, presque j'ai envie de dire à l'opposé d'un Glenn Gould, dont on sent bien que la vie intérieure est très torturée. Il y a chez ce pianiste quelque chose de très naturel. Voilà, je trouve cette version extraordinaire. Et encore plus incroyable quand on sait donc que c'est une version live non retouchée, c'est tel qu'il l'a donné. Certains de mes amis qui ont entendu ce concert il y a quelques années le mettent dans les 5 plus beau concert de leur vie. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à rendre cet hommage à Eric.
Merci de nous avoir fait ce cadeau, de nous avoir permis de l'écouter dans Mélomanie. Il y a aussi des versions pour orchestre des Goldberg. En voici par exemple une, arrangée par Rinaldo Alessandrini pour sa formation Concerto Italiano, la troisième variation. La troisième variation des Goldberg, un court extrait donc joué par l'ensemble Concerto Italiano dans un arrangement de son chef et fondateur, Rinaldo Alessandrini, arrangement et musicien que vous aimez beaucoup, et ça nous donne l'occasion de parler de la construction donc des variations Goldberg.
Voilà, c'est une œuvre absolument incroyable hein, sur le plan, on va dire sur beaucoup de plans, sur le plan de la virtuosité instrumentale, sur le plan de la qualité de la composition évidemment, mais aussi sur le plan de sa construction intime. Alors Bach a conçu sa partition comme ça. On a donc l'aria de départ, le thème, sur lequel il va construire ses variations, ou sur la basse duquel il va construire ses variations. Et lorsqu'on arrive toutes les trois variations, il a composé un canon. Qu'est-ce que c'est qu'un canon ? Mais vous savez tous ce que c'est. Un canon, c'est par exemple quand on chante Frère Jacques, mais en décalé. La première voix rentre à un moment et la deuxième voix rentre un petit peu plus tard, et les deux, comme par miracle, c'est une sorte de fugue, on pourrait dire, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la fugue, en un petit peu plus simple. Et toutes les trois variations, donc la variation 3, la 6, la 9, etc., etc., il y a un canon. Mais c'est pas suffisant. Le premier canon est à l'unisson. Le deuxième canon va être décalé d'un cran, c'est-à-dire qu'on va être à l'unisson plus un ton. Le troisième canon va être à l'unisson plus deux tons. C'est une forme de jeu, on pourrait dire, mais un jeu d'une complexité évidemment absolument incroyable. Et la version pour orchestre a l'avantage par rapport peut-être à la version pour clavecin et même à la version pour piano. Et je pense qu'on l'a entendu, j'ai choisi évidemment exprès un canon. On entend le contrepoint, c'est-à-dire ce jeu des différentes voix qui jouent la même mélodie de canon. On peut l'entendre de manière un petit peu plus claire lorsque c'est joué par différents instruments et non pas par les mêmes doigts du même pianiste. Voilà. Un dernier mot sur la construction, j'en ai pas fini tout à fait, et Bach non plus. Il a construit son œuvre en deux parties égales et symétriques. On arrive à la 15e variation et la 16e va recommencer ce cycle et toutes les trois variations un canon, mais comme il recommence quelque chose, il met une variation qui est une ouverture à la française pour bien dire je réouvre mon recueil. Et enfin, à la fin, sera réinterprété, il le demande expressément, l'aria du début, comme pour refermer l'œuvre de manière cyclique, comme un cercle parfait qui se refermerait, peut-être simplement avec une légère différence, on va dire, sur beaucoup de plans, pour l'interprète qui vient de jouer pendant plus d'une heure et pour l'auditeur qui vient de l'écouter.
D'où l'intérêt d'écouter donc cette version pour orchestre, mais il y a eu aussi des versions pour guitare, notamment celle du duo Mélisande, formé par le Toulousain Sébastien Linares et le Nordiste Nicolas Lestocois. Ils interprètent ici la 30e variation. Mélisande, les guitaristes Sébastien Linares et Nicolas Lestocois qui jouaient donc ici la 30e des variations Goldberg. Alors vous aimez cette version pour deux guitares, mais il y a quelque chose de particulier dans le morceau qu'on vient d'écouter.
Voilà, je vous ai parlé de la construction très complexe donc de l'œuvre, mais j'ai omis avant d'entendre cette version, je voulais vous en parler justement après, dans la 30e et dernière variation, celle qui précède tout juste le retour de l'aria de départ, de cette magnifique mélodie de départ, Bach fait comme très souvent dans sa musique, on en parlera dans l'art de la fugue, on aura l'occasion d'en parler dans l'art de la fugue dans un instant, un petit secret. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais rentre au bout de quelques secondes dans cette variation, une petite mélodie qu'on pourrait dire vraiment, alors c'est du Bach, ça, vraiment une petite mélodie très simple. Tin-tan, tin-tan, tin-tin, ti-da-dam. Et oui, c'est une chanson populaire de l'époque, chanson populaire qui dit quand même très exactement « Tes choux et tes betteraves m'ont lassé, si tu m'avais proposé de la viande, je serais resté. » Voilà. Alors, c'est incroyable, mais dans la musique la plus savante du monde, Bach réussit à glisser non pas une, mais deux mélodies de chansons populaires que toutes les personnes à l'époque, évidemment, sur laquelle tout le monde pouvait mettre les paroles de choux
tout
et de betteraves.
Voilà.
C'est absolument inouï parce qu'on a la composition la plus savante du monde et à l'intérieur, Bach se permet ce petit jeu. Il faut dire qu'il était bien entraîné parce que dans la famille Bach, on était très friands de ce genre de choses. On appelait ça des quolibets et on s'amusait donc à improviser sur des chansons populaires, mais de manière savante.
Anecdote qu'il fallait raconter. Merci beaucoup, Michel Brun. On en reste là pour les variations Goldberg. Nous allons maintenant aborder l'art de la fugue, dernière œuvre au programme de cette émission. Bach en commence donc la composition entre 1740 et 1742. Il va y revenir presque sans arrêt jusqu'à la fin de sa vie. Et ce recueil va rester inachevé. Qu'est-ce que c'est que cette ultime entreprise, ce chantier sans fin? Est-ce que ce serait une sorte de testament musical que nous a laissé Bach?
Alors, évidemment, c'est tentant de dire ça, parce qu'on aime bien ça, hein, c'est sa dernière œuvre. Non, ça n'est pas sa dernière œuvre, hein, semblerait-il. Elle est inachevée, effectivement, mais tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps d'y revenir, mais il semblerait qu'il n'y ait pas travaillé. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on pourrait imaginer, elle est vraiment suspendue. Hein. Il y a une suite de notes, et puis la musique s'arrête en plein milieu d'une mesure, la mesure n'est pas complète, et l'œuvre n'est pas conclue. Mais ce qu'on voudrait, c'est un petit peu comme dans le film Amadeus, avec Mozart et le Requiem, on aimerait cette scène très mélodramatique de voir Bach s'effondrant dans son lit ou à son bureau, au milieu de l'écriture de cette pièce. C'est pas le cas, il semblerait qu'il ne soit pas revenu la dernière année de sa vie. Voilà, mais enfin, ça fait partie évidemment des œuvres ultimes. Alors, c'est encore une nouvelle entreprise. Ça n'est pas le clavier bien tempéré, ou donc, je rappelle, un prélude et une fugue sur chaque note de la gamme chromatique du clavier. Cette fois-ci, on reste dans la même tonalité d'un bout à l'autre. La tonalité choisie est celle de Ré mineur. Voici le thème. Et ce thème va être le motif qui va générer l'ensemble de l'œuvre. Donc, contrairement au clavier main tempérée, on ne change pas de tonalité et il n'y a qu'un seul motif. C'est absolument inouï. Et il va là encore nous tenir une heure en haleine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait tout ce qu'il est possible de faire quand on écrit une fugue. Alors, la première chose quand on écrit une fugue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement de prendre ce thème et de le superposer à plusieurs voix. C'est peut-être ça qui mériterait d'être entendu en premier.
Alors juste une chose tout de même, on a dit que c'était un sommet du style contrapuntique, est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est le sommet du style contrapuntique?
Je crois que c'est incontestable. Il y a deux sommets pour moi dans le style contrapuntique, qui sont tous les deux chez Bach, et qui sont tous les deux des œuvres de la fin de sa vie, la deuxième étant probablement la dernière qu'il ait composée, dans le domaine profane, l'art de la fugue, et dans le domaine religieux, la messe en si, qu'il a fini juste avant de mourir, qu'il n'a jamais entendu, il faut le savoir, dans son intégralité. C'est toujours très, très surprenant quand on sait qu'un créateur n'a pas pu entendre son œuvre avant de mourir. Et la messe en si, donc, sur laquelle il a travaillé pendant 20 ans, mais qui, lui, est un sommet de l'art du contrepoint, c'est-à-dire de cet art de la superposition des voix, mais dans le domaine religieux.
Nous allons encore vous proposer plusieurs extraits pour vous faire découvrir l'art de la fugue sous diverses formes, divers instruments, diverses interprétations, divers interprètes. La version originale a été écrite pour le clavecin. Nous commençons donc avec une interprétation sur cet instrument et sous les doigts d'un très grand musicien, Gustav Leonhardt.
Thank you.
Le premier contrepoint de l'art de la fugue joué au clavecin par Gustav Leonhardt. Alors il était important de rendre hommage à ce grand musicien qui a beaucoup contribué au renouveau du baroque, Michel Brun.
Absolument, il fait partie, on va dire, de ce trio extraordinaire qui sont maintenant tous les trois décédés, les membres de ce trio, donc Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt et Franz Brüggen, qui ont été, les papes de ce renouvellement, de la redécouverte des instruments anciens. J'en ai parlé la semaine dernière à propos de la Passion selon saint Matthieu, qui sont allés dans les musées, qui ont sorti des musées ces instruments qu'on croyait inutilisables, qui ont réappris tout seuls, sans professeur, à en rejouer, qui ont osé se produire sous les quolibets du public au début, surtout du milieu musical, et qui ont fini par, on pourrait dire d'une certaine manière, triompher, tout simplement parce que même leurs pires détracteurs sont maintenant influencés par leurs interprétations, sans même le savoir.
Gustav Leonhardt, grand chef d'orchestre aujourd'hui, c'est ce qu'on garde de lui, mais à la base, on vient d'entendre, merveilleux claveciniste.
Merveilleux claveciniste, alors par contre, très austère, un homme qui défendait le fait que cette musique est une musique de l'intérieur et qui ne doit pas donc montrer d'ostentation particulière.
Une version de l'art de la fugue au piano maintenant avec le grand pianiste russe Grigori Sokolov. L'art de la fugue, je crois que c'est le quatrième contrepoint interprété par le pianiste russe Grigori Sokolov, qu'on connaît bien et entend souvent en concert à Toulouse, lors de la saison des grands interprètes dont il est un invité récurrent. Vous aimez beaucoup aussi ce pianiste,
je crois. Alors là, chapeau bas, hein, j'ai envie de dire, comme a dit Schumann à propos de Chopin, chapeau bas. Là, c'est un immense artiste, hein, voilà, un des plus grands pianistes actuels, incontestablement. Ça n'a pas l'air d'être un monsieur très rigolo, mais quelle profondeur dans son jeu.
Je crois qu'il vit que pour la musique, Sokolov.
Voilà, c'est ça, exactement, je pense, absolument. Alors, mais peut-être certains auditeurs dire mais pas du tout. Tout à l'heure, vous avez dit que toute l'œuvre était basée sur le même thème, or on n'a pas reconnu ce thème. Alors voilà, il faut savoir qu'avec la fugue, on peut jouer beaucoup. Eh bien si, c'est le même thème, mais simplement cette fois-ci, la fugue apparaît avec le motif inversé. C'est-à-dire que au lieu de faire tout intervalle qui était montant ou ascendant dans la version originale est là descendant. Et tout intervalle qui était descendant dans la version originale du thème est montant. Et donc, c'est ce qu'on appelle par mouvement inversé. La première entrée présentée donc à l'envers, tan-ti-tan et tan-pom, à la place de premier intervalle ascendant, premier intervalle descendant. Et en plus, Bach se permet donc une petite ornementation. Tan, tan, ta, tan, ta, tim. Donc, il rajoute ces petites notes de passage au milieu, mais c'est bien le même thème. Voilà un des exemples, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, de ce qu'on peut faire avec un thème de fugue.
Voilà, d'où l'intérêt d'écouter l'extrait que nous venons d'entendre, un autre extrait maintenant, et une autre version de l'art de la fugue, à l'orgue, cette fois-ci, le septième contrepoint.